concerts autour du lac. Les soirées musicales enregistrées à votre intention par Radio Semnose. Yves Santi au micro pour ce rendez-vous musical. Bonjour à chacune, bonjour à chacun. Aujourd'hui, nous allons voyager dans notre région, mais pas seulement. Notre invité pour ce voyage, eh bien, j'accueille derrière ce micro Binyamin Grelzheimer. Bonjour.
Bonjour Yves.
Est-ce que je prononce bien Grelzheimer?
Oui. Grelzheimer.
Grelzheimer. Quelle origine, Grelzheimer?
Grelzheim,
c'est un peu l'Alsace, ça.
C'est l'Alsace, enfin, parce que ça a été francisé en 1781. On va dire qu'en 1781, ma famille est arrivée en France de l'Allemagne, mais il y a un village qui s'appelle Grelzheim, et du coup, c'est le Grelzheimer, celui qui vient de Grelzheim, simplement.
Alors vous voyez qu'aujourd'hui, on va parler histoire, on va voyager ensemble en votre compagnie. Un voyage donc géographique, mais aussi un voyage dans le temps et dans les instruments. Est-ce que vous êtes d'accord de jouer les guides pour ce rendez-vous aujourd'hui?
On va essayer, c'est difficile à définir, mais on va essayer.
Un voyage plus personnel, il faut dire aussi que vous habitez Annecy.
Oui.
Après avoir bourlingué par le monde, vous avez posé vos valises à Annecy. C'est pour cela aussi qu'on va parler de vous. Vous êtes venu avec un album qu'on va découvrir et vous nous direz aussi pourquoi cet album. Mais vous êtes franco-belge-israélien. Vous voyez, donc déjà aussi, ça fait résonance voyage. Vous avez fait des études musicales. Mais avant de voyager et de nous dire quel est votre instrument de prédilection qui est le clavecin. Maintenant, nous allons tout de suite faire une petite pause, comme ça on va se plonger dans l'ambiance du clavecin. Et j'ai choisi cette pièce que vous m'avez apportée qui s'appelle Sainte Cécile et la Muse. Qu'est-ce qu'on peut en dire juste avant l'écoute?
D'abord, ce n'est pas le vrai titre, simplement c'est un titre que je lui ai donné parce que ça m'a inspiré quand je suis arrivé à l'abbaye d'Abondance où ils m'ont laissé très gentiment faire ma petite vidéo. Où on peut voir deux dames qui représentent la beauté humaine et du coup Sainte Cécile et la Muse qui est son inspiration. La pièce elle s'appelle Uranus et c'est une pièce sur la Muse dans la tête de ce compositeur, Monsieur Fischer, qui a écrit des pièces pour clavecin et c'est le prélude.
Nous nous retrouvons, vous voyez, c'était une courte pièce très agréable à écouter. Cette émission sera beaucoup placée sur le clavecin. Le clavecin, votre instrument maintenant, il n'a pas été le seul. Vous avez commencé votre découverte de la musique plutôt autour du piano, plus jeune, parce que vous êtes encore très jeune.
Je viens de cinq frères. qui étaient tous musiciens. On est une famille un peu, je pense toujours à Bach et comment il s'est senti quand il a grandi parmi ses oncles, ses cousins, ses frères, toute sa famille qui le bourlinguait d'un côté et d'un autre à propos de la musique. Et lui, il voulait prendre sa voix, etc. Je suis frère d'un grand chef d'orchestre qui est très connu dans le monde, et je voulais prendre ma voix et je voulais prendre ce qui était à moi. Et je jouais le même instrument que lui, qui est le piano, et je l'admirais beaucoup, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'attendait. Quand j'étais enfant, quand j'avais 17 ans, j'avais rencontré Stéphane Cardon, qui était un grand chef d'orchestre, un vieux maître. Il était à la fin de sa vie et il m'a dit « t'es bon, t'es très bon, viens, je t'enseigne ». Et j'ai appris 3 ans avec lui, on-off, la direction de l'orchestre. Après, j'ai repris et j'ai étudié ça pendant 15 ans. Pendant ce temps, je jouais du piano, qui n'était pas dans mes intérêts principaux, mais j'aimais beaucoup cet instrument, bien sûr. Et quand je suis arrivé à Trieste, à la fin, on va dire, de mes recherches, avant mes vraies études, je suis tombé sur une dame qui s'appelle Paola Erdas, où j'ai commencé le clavecin, qui m'a totalement allé.
Vous êtes parti au départ avec la famille, vous étiez donc à Jérusalem, en Israël.
Oui.
C'est ça. Après, vous êtes venu sur la région de Boulogne-Billancourt, c'est ça, au niveau
oui,
de...
Oui, à un certain moment, mon père est revenu à Paris.
D'accord.
Pour du travail, et ma mère aussi, c'est deux professeurs d'université.
Mais vous êtes reparti aussi à Tel Aviv pour réétudier encore la musique.
Oui, je voulais revenir, mais ça ne m'allait pas du tout.
C'est à partir de là que vous êtes revenu et vous avez voyagé l'Italie, Paris et même Bruxelles, parce que j'ai dit tout à l'heure que vous étiez un franco-belgo-israélien. Ça veut dire que le passage à Bruxelles aussi pour apprendre encore, et ça c'est un peu plus proche.
Oui, en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin de toutes ces étapes pour me donner une chose dans ma musique et pour comprendre quelque chose sur la vie, sur les humains.
On y viendra tout à l'heure, c'est un peu un portrait qu'on fait aujourd'hui, une émission un peu spéciale, on va dire. On va peut-être plus parler qu'écouter de la musique, mais non, la musique est très présente, elle est très présente dans votre vie. Si nous écoutions les Vêpres de Monteverdi avec l'école de la Hemne, est-ce que vous expliqueriez quelques minutes avant?
Bah, j'étais à l'école, je finissais mon master et voilà, c'était un essai sur la musique de Monteverdi avec l'école de la HEM. C'était un petit essai que j'avais fait.
Mais qui marque quand même pour vous, parce que vous gardez un souvenir très, très profond de ce moment-là.
C'est de la musique très spirituelle, donc ça remplit les âmes, on va dire.
Écoutons ensemble, plongeons-nous dans cette musique et on vous retrouve, je rappelle aujourd'hui, notre rendez-vous concert autour du lac en compagnie de Binyamin Gressamer.
Thank you.
Vous avez aimé ? Nous, oui, ici, de ce côté du micro. On sent une grande sensibilité en vous, Benyamin. Mais à vous regarder, parce que les auditeurs n'ont pas l'image, moi, vous me faites penser un peu à un mousquetaire. Parce que, je ne sais pas, c'est quelque chose comme ça que je ressens. Alors, c'est pas une épée que vous avez, mais c'est plutôt un clavecin qui est votre arme.
Je tiens mon clavecin un peu comme une arme contre les mauvaises ondes et les mauvaises énergies. Et c'est marrant que vous avez dit les mousquetaires, c'est une histoire de mon enfance.
Ah bon ?
Mon père me racontait toujours que Alexandre Dumas a eu un bâtard avec une femme qui s'appelait Belle Grelzhammer. On ne saura jamais si on est sorti d'un auteur qui nous a donné de la force et l'envie de sortir son épée pour combattre.
Eh ben, voyez, comme quoi, des fois, il y a des choses comme ça qu'on découvre sans le savoir. Quand j'écoute votre musique, quand vous m'avez montré aussi quelques vidéos, parce que vous êtes sur YouTube, on peut aussi vous voir sur YouTube, vous avez aussi des tenues 16e, 17e siècle. Est-ce que c'est une période parce que le clavecin vous a, je vais pas dire figé, parce que la musique ne vous fige pas du tout, mais est-ce que c'est cette période-là que vous affectionnez particulièrement ?
Vous savez, le musicien, il a des opportunités qui est sur sa route et lui, il doit les saisir parce qu'il a une vie déjà tellement difficile. Donc, il doit prendre qu'est-ce qu'on lui donne. Un jour, on m'avait proposé de rester dans une crypte magnifique du 13e. Je me suis dit, vous savez quoi, je vais m'habiller joliment et je vais me mettre au clavecin. Et je vais demander à un ami à moi qui habite dans la région, Julien Baudin, qui a des très beaux clavecins. Et je vais lui dire d'aller dans une crypte et la mettre, la vidéo, mettre ce clavecin sur pied et me faire jouer. Et c'est ça la vidéo qu'on peut voir.
Repartons musique, parce que vous êtes venu avec un album qui lui aussi a une histoire, même j'allais dire une histoire intéressante, parce que Hervé Dufournet, qui est de l'autre côté de la vitre, notre ingénieur du son, notre technicien avec sa qualité sonore, est venu chez vous et a enregistré cet album. Donc c'est une complicité, Radio Semnose et Benyamin Grelzhammer. Parlez-nous de cet album.
C'était un essai. Les disques n'ont pas tellement de sens aujourd'hui, bien sûr, mais pour moi, l'essai d'enregistrer, l'essai d'essayer quelque chose. Donc ce disque, je l'ai fait en une journée avec Hervé. On l'a sorti en 2 jours. Et c'était un G sur disque pour essayer de créer une complicité entre les auteurs et qu'ils enregistrent.
Donc votre souhait, c'était juste un moment comme ça, figé dans le temps, qu'on conserve avec la spontanéité, les doigts sur le clavecin.
Oui, en fait, je ne voulais pas l'utiliser comme une arme. Beaucoup de fois, les disques sont des armes.
Ils sont tellement ciselés, ils sont tellement remasterisés, où chaque note peut être encore pointée.
Je voulais que ça va être une petite erreur que je fais et que je pourrais garder pour moi.
Rien d'artificiel, en tout cas. Vous êtes dans le naturel.
J'essaye. C'est le travail de ma vie, en fait, de donner ça aux autres, de pouvoir les nettoyer, leur donner une sorte de vérité.
Cet album contient 27 plages qui sont très courtes, mais en alternance. Il y a la musique et il y a des poèmes. L'album s'appelle La Notte di Michelangelo.
La Notte di Michelangelo.
Écoutons cette première pièce qui s'appelle en italien...
Transilvano.
Transilvano, c'est ça. Thank you. explication.
La chose qui est importante à savoir, c'est que Dirouta, par exemple, était un compositeur du temps de la fin de Michel-Ange. Il a vécu 11 ans avant qu'ils se sont séparés leur route par la mort, mais ils auraient pu se connaître. Donc cette complicité m'a intéressé beaucoup de savoir qu'est-ce que Michel-Ange et Dirouta auraient pu entendre un de l'autre. Cette complicité, elle est importante et c'est pour ça que j'ai pris une belle voix qui nous raconte Michel-Ange, et c'est Nouria Sabatini, une littéraire.
On va maintenant donc repartir en musique, on va découvrir un peu plus cet album, si vous le voulez bien. Donc il y a plusieurs plages qu'on va écouter à la suite, entre clavecin, une alternance entre clavecin et voix. C'est une partie de vous que vous exprimez au travers de cet album.
Sasso è costei, che l'estinto figliuol, freddo qual ghiaccio, sostien pietosa in braccio. Sasso piuttosto sei, tu, che non piagna la pietà di lei, anzi, sei più che sasso, che suole anco da sassi il pianto uscire. E i sassi si spezzaro al suo morire.
Quelle belle voix! Petite explication, Binyamin, sur cette Pietà.
Par rapport à la statue que Michel-Ange a fait, qui se trouve à Rome, Marino, un poète qui est venu un peu après, a vu cette statue, il a écrit une poésie. Et c'est un peu une histoire d'amour platonique vers quelqu'un qui est venu avant toi, que tu aimes tellement que tu écris une poésie. Donc on l'a mis aussi dans cette complicité.
Eh bien, la complicité, on va la poursuivre encore pour mieux rentrer dans cette musique. Et alors, c'est vrai que pour nos amis italiens qui écoutent la radio, je crois que cette voix aussi résonne et rappelle un peu quelques racines. L'album est fait d'alternance, alors on va continuer nous aussi avec cette alternance musicale. Plusieurs courtes pièces et poèmes à votre écoute. C'est sur Radio Semnose.
Vita espiri, notte di freddo sasso, o peregrino ammiri, vivo e soltanto vita, quant'io son qui scolpita, e se io non parlo, e se io non muovo il passo, che colpa ha la scultura? Muta e pigra la notte è per natura.
Donc vous l'avez compris, chers amis auditrices et auditeurs, que l'on parle avec un artiste, un chef d'orchestre et aussi claveciniste avec ces pièces que l'on vient d'entendre. Binyamin, si nous parlions de l'instrument, l'instrument qui a voyagé dans les pays, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Angleterre aussi, a utilisé à une certaine époque le clavecin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, chaque pays l'utilisait à sa façon ou alors il y avait une approche commune ?
200 ans de richesse totale, d'héritage européen, surtout 5 pays, mais il y en a plus. Des pays qu'on connaît totalement par leur roi, leur archiduc, etc. Chacun avait un style et une façon de construire leur instrument, de construire leur façon, des compositeurs qui ont construit leur musique. Cette brillance a été en plusieurs périodes, donc chaque période a été définie par le sort de musique, le sort de baroque. Nous, on connaît vraiment tellement peu, en fait. On connaît la fin du baroque italien, par exemple, ou le milieu du baroque français, par exemple, où il y a ces grands clavecins très connu, où on va jouer du Louis Couperin et après du François Couperin. Ces périodes sont extrêmement variées, en fait, et de chaque pays à chaque pays, il y a une autre histoire, une autre façon de jouer du baroque. En Angleterre, par exemple, il y a eu énormément de problèmes, mais les chefs d'église, chaque fois, c'était des grands organistes qui écrivaient aussi pour orchestre. Et il y avait eu des chefs-d'œuvre absolus, mais chaque fois, le compositeur mourait très tôt. Donc chaque fois, il y a quelqu'un qui prend le relais. Et c'est des histoires passionnantes qui passent à travers l'humain et à travers les époques. Et ces 200 ans, ils sont tellement riches qu'on ne pourrait même pas apprendre toute cette musique.
C'est drôle parce que le clavecin a ses amateurs, ses amoureux et aussi ses détracteurs. On dirait qu'on n'est pas neutre devant le clavecin.
Le problème du clavecin, c'est qu'on ne sait pas comment l'attraper. C'est un instrument qui est magique, qui s'adapte à la personne par la construction et par la personne qui la joue. On peut la jouer de façon totalement différente d'une personne à une autre sur le même clavecin. On peut le jouer d'une façon hardie, on peut le jouer d'une façon virtuose, on peut le jouer d'une façon mélodique. Et chaque fois, ça va être totalement une autre personnalité. Le clavecin va changer. Et la chose qui est la plus importante à propos du clavecin, c'est que c'est un instrument qui a été construit pour être soliste. Mais il est tout sauf soliste. Ça veut dire qu'il a été construit pour accompagner des autres, accompagner en amitié les autres. Et donc cette complicité est incroyable, parce qu'on attrape tellement de gens dans le processus, et il faut aimer les autres pour pouvoir jouer cet instrument, parce qu'on ne joue pas cet instrument seulement tout seul, jamais.
On y reviendra tout à l'heure sur justement le rôle de l'instrumentiste, le rôle de celui qui accompagne, comme vous dites. Mais là, on va écouter un soliste, c'est vous-même, qui jouez une œuvre de Couperin en rondo. Facile, difficile ?
C'était une œuvre qui me demandait beaucoup, beaucoup d'inspiration. Il faut rester dans le même endroit pendant une journée entière pour regarder dehors par la fenêtre, pour comprendre.
Et on joue quelle partie du clavecin ? Le haut, le bas ?
C'est le milieu en général qu'on joue. Dans les claviers, c'est comme ça. Des fois, de temps en temps, on monte un peu, on descend un petit peu, parce qu'on aime beaucoup les basses, toujours. L'histoire de cette pièce, c'est que Louis Couperin, en général, on doit le jouer très peu. On a besoin de prendre très peu de Louis Couperin pour le comprendre. Louis Couperin, il écrivait des grandes œuvres, très longues, mais si on prend une pièce des grandes œuvres qu'il a écrites, on commence à comprendre comment il était. Un homme qui aimait les petites perles, il n'aimait pas les grandes choses. Et donc on doit prendre une partie par partie pour comprendre qu'est-ce qui se passe.
Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Nous allons écouter ce rondo de Louis Couperin. Thank you. petite pièce, effectivement, mais très agréable à entendre, Binyamin. Tout à l'heure, vous disiez qu'on est seul avec son clavecin, mais le clavecin n'est pas un instrument qui est fait pour être aussi joué seul. Alors, vous avez aimé vous retrouver avec, j'allais dire, pas des complices, mais en fait, des personnes qui avaient aussi une passion de la musique et jouer ensemble.
Ce qui est merveilleux avec le clavecin, c'est qu'on peut se retrouver avec des gens qu'on aime très facilement. Donc, on les cherche tout le temps, en fait, toute notre vie. Comme claveciniste, on cherche des gens qu'on peut aimer. Et cette force, c'est de jamais se retrouver tout seul. Donc, chaque fois, on retrouve des gens qu'on veut pousser ou être avec. Et on enregistre avec eux des pièces, parce que tout a été construit aussi comme ça, pour le clavecin. Donc, chaque fois, on entend une personne soliste qui se met devant et on veut la suivre.
Donc il y a des croisements de route comme ça, où on est content de pouvoir partager.
On espère que ça tient dans le temps, mais beaucoup de fois pas.
En préparant cette émission, vous m'avez apporté un enregistrement avec Pablo Agudo. Et là, il y a aussi deux virtuoses qui se retrouvent là, avec cette pièce.
Quand on aime beaucoup jouer ensemble, ça marche.
Nous allons vous écouter marcher ensemble au pas de la musique. Voyez comme c'était beau. Vous avez écouté comme moi cette pièce interprétée par Pablo Agudo au violon et Benjamin Grelsheimer au clavecin. Une complicité, comme on disait tout à l'heure, vous en avez eu d'autres. J'aimerais maintenant que l'on écoute, on vous écoute avec un autre complice qui est Clément Zani, et là, c'est à la flûte.
Clément et moi, on a étudié dans la même école à la fin de mes études et j'ai toujours tellement aimé sa façon de jouer et donc je voulais absolument l'accompagner. Et on est arrivé à faire une chose merveilleuse à l'orgue et à la flûte, dans la plus belle salle de Genève, c'était Victoria Hall, où par hasard on m'a reçu pour faire la fête de la musique.
Alors vous m'avez dit orgue, parce que pour l'instant on était calé sur le clavecin, mais quand on est clavier, on peut jouer du piano, on peut jouer de l'orgue, on peut jouer du clavecin, bien sûr. C'est pas les mêmes instruments, c'est pas les mêmes spécificités, mais quand même, il y a quand même un lien.
La chose qui est très très belle avec ces trois instruments, c'est que chacun représente une famille. Mais on est sur des claviers. Donc on a les flûtes pour l'orgue, on a la guitare pour le clavecin,
oui,
et on
compenser.
A des timbres en percussion pour le piano. Donc chaque fois, on peut jouer avec cette complicité pour avoir des sons différents.
On vous écoute tous les deux encore, je rappelle, avec Clément et Benjamin. Voilà, nous avons entendu des instrumentistes. Benjamin, vous êtes un peu un musicien multifacette. Avec cette grande sensibilité que pour vous, la musique, c'est pas seulement jouer. C'est, on va dire, presque communier avec ceux qui vous écoutent.
Faire de la musique, c'est pas une chose qui vient de l'ego. Faire de la musique, c'est comprendre l'autre. Quand on donne quelque chose à l'autre, on donne la musique, on grandit ensemble. Donc un concert, pour moi, c'est un concept dans lequel les gens ils viennent pas pour m'admirer moi, mais pour écouter quelque chose qui les remplit, qui les envoie sur une autre route.
Alors, est-ce que vous aimez du coup les salles plus intimistes que les grandes salles ? Vous vous êtes produit partout,
en tant que
chef, en tant que musicien.
Moi, le concept, et c'est ça qui est le plus important à comprendre, c'est que j'essaie de comprendre où je suis. C'est pour ça que je pourrais jamais envoyer franchement des emails à un directeur artistique avant de connaître la salle dans laquelle je joue. Je pourrais jamais parce que quand j'arrive quelque part, l'endroit il me dit quelque chose. Et c'est cette chose qu'elle me dit, c'est ça qui va me faire jouer cette musique-là. Quand je suis dans un espace, dans une acoustique, dans une histoire d'un endroit et de gens qui sont passés à travers, je la sens. C'est ça mon histoire et j'essaye de m'adapter à cette histoire-là à travers la musique et de la transmettre au mieux possible à travers l'énergie aux autres qui sont dans la salle. C'est ça que je fais. Donc je pourrais jamais me reproposer sans savoir où et comment.
Votre instrument, le clavecin, vous en avez bien sûr un à la maison. Est-ce que c'est un instrument qui se transporte ?
Il faut faire beaucoup de modifications, c'est un instrument extrêmement délicat.
Oui.
Quand on le bouge, y a tellement de choses qui se passent dedans qu'après on a besoin d'une bonne aide.
Alors est-ce que c'est pas un handicap justement si on veut se produire ? Avoir choisi, quand on prend un violoncelle, quand on prend un violon, on peut aller n'importe où. Là, il y a quand même une difficulté.
La difficulté, c'est qu'on doit se faire des amis. C'est une belle chose aussi. il faut comprendre que le claveciniste, comme tout le monde, mais le claveciniste surtout, a un instrument en bois très délicat, donc il faut qu'il s'entoure de gens qui peuvent prendre soin de lui par toutes les manières. Mais là, on parle de ça qu'un claveciniste a besoin d'un facteur de clavecin tout le temps à côté de lui, parce qu'il a besoin de quelqu'un qui s'y connaît dans la profondeur de l'instrument, qui l'a construit, qui que le refabriquer, on va dire, à chaque moment présent. Ils sont pas toujours présents, et quand on fait ces rencontres, c'est merveilleux.
En vous écoutant, je sens que votre envie, c'est ça, c'est d'être proche du public, de pouvoir partager comme ça un moment d'émotion.
La première chose que je dis au début du concert et à la fin, c'est venez me parler. Parce que c'est ça qui est important ici. C'est comme ça qu'on peut construire un monde meilleur, c'est comme ça que le concert sert à quelque chose. Il sert pas à tourner la roulotte, il sert à ramener les gens parmi eux-mêmes.
C'est-à-dire, on vient pas au concert pour faire voir et être dire.
Je déteste ça, c'est absolument ignoble. Je voudrais pas me faire voir, mais je dois me faire voir parce que je dois m'exprimer. Et c'est affreux ensemble, en fait, on sait pas comment gérer ça. Donc d'un côté, il faut se mettre devant. Moi, je dois me mettre devant, je dois m'appeler par mon nom. Mais je voudrais pas être la personne que vous admirez, je veux être la personne qui vous donne quelque chose.
Quel beau concept. Merci pour cet échange, ce partage. Comme je disais aujourd'hui, on a beaucoup plus parlé qu'écouté, mais c'est important aussi que les artistes puissent s'exprimer et notre micro est là, est ouvert.
Être musicien, c'est d'une certaine façon un calvaire. Mais ce calvaire, il est tellement beau qu'on l'utilise. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va souffrir. On va souffrir durant toute notre vie. Mais on est prêt. On est prêt à souffrir parce qu'on veut faire partie de la paix. Je viens d'un pays qui est détruit par des conflits internes et externes. Et on comprend que c'est du faux. Tout est faux. Il faut utiliser les choses qui sont belles pour se réunir. Les choses belles qui réunissent, c'est avant tout l'art. Et l'art est fait que pour ça. Elle n'est pas faite pour autre chose.
Oui, donc rappelons que votre pays d'origine, c'est Israël. Quand on le dit en début d'émission, et pour nos amis auditeurs qui nous prennent juste maintenant, ce parcours que vous nous avez exprimé, Benjamin, avec cette sensibilité que vous avez aussi, c'est de faire partager cette joie de la musique. Est-ce que c'est pour vous aussi une souffrance d'avoir eu ce don de la musique en tant qu'interprète, en tant que chef d'orchestre? On va le dire, vous n'avez que 35 ans, vous êtes un jeune chef d'orchestre.
Je suis simplement curieux. Je suis curieux, je cherche à comprendre. Ça passe à travers toutes les disciplines que je peux réussir à apprendre.
On ne va pas vous lâcher comme ça. On espère pouvoir vous retrouver un jour aussi, tout proche de nous. Mais avant de se quitter, il y a une œuvre que vous aimeriez que nous partagions ensemble. Et c'est à l'orgue cette fois-ci. On quitte le clavecin pour trouver l'orgue.
Oui, c'est une pièce intime d'un homme qui connaissait très bien le clavecin, Frescobaldi. Girolamo Frescobaldi connaissait très bien le clavecin. C'était un grand maître d'orgue dans sa chapelle à Rome. Il a écrit des pièces magnifiques, des perles qui me rapprochent à des compositeurs comme Louis Couperin qui est venu après. Donc j'ai voulu jouer ça sur l'orgue et c'est ça qui est sorti.
Écoutons ça ensemble et on se retrouvera pour le mot de la fin.
ce système moderne, le monde musical, il agit sur le musicien qui essaye seulement de s'exprimer, ça me déstabilise et je me retrouve pas. Des gens comme John Bull, justement, qui se retrouvaient pas dans la société de son époque, qui était la fin de la Renaissance, donc rien à voir avec notre époque, mais il avait déjà cette sorte de persécution à propos de qui il est, pourquoi il est. Juste, c'était d'autres contextes. Chez lui, c'était religieux. Chez moi, c'est ou politique ou personnel, etc. Et ça me touche beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai commencé à jouer justement sa musique.
Et bien, c'est ce que nous allons écouter maintenant pour terminer notre rendez-vous aujourd'hui. Benjamin Grael-Simer. Je crois que la fragilité du musicien s'est dévoilée autour de ce micro. Et comme vous êtes venu avec l'album qu'on a présenté tout à l'heure, j'aimerais aussi qu'on écoute une voix. Ça sera la voix d'une muse et ça sera Rima, la pièce, et Belle vie aux musiciens, belle vie à vous, et aussi que la musique soit un rayonnement pour ceux qui l'écoutent. Je crois que ça, c'est aussi un peu votre vœu.
Rappelez-vous toujours que Michel-Ange, il a eu des problèmes. Personne n'appréciait. Quand on écoute Michel-Ange qui écrit, on entend la rage, la tristesse. Mais du coup, on entend aussi un point de lumière, parce qu'on sait qui était Michel-Ange, et on est tous derrière lui. Donc, d'une certaine façon, on a retrouvé la lumière avec lui.
Merci. Côté pratique, est-ce qu'il y a un lien pour pouvoir suivre votre
On a
vie,
essayé de mettre un maximum sur YouTube et un petit peu sur Spotify. Bien sûr, le disque est sur Spotify.
Que je rappelle, Benjamin Grael-Simer, Grael-Simer. Au revoir et merci.
Tanto sopra me stesso mi fai, donna, salire, che non che gli possa dire, non so pensar, perché io non so più d'esso. Dunque, perché più spesso, se l'ali tue mi presti, non m'alzo e volo al tuo leggiadro viso, e che con te corresti, se dal ciel n'è concesso scender col mortale in paradiso, se non che io sia diviso dall'alma tuo, grazia, e che quest'una fugga teco sua morte, è mie fortuna.
C'était Concert autour du lac. Les soirées musicales enregistrées à votre intention par Radio Semnose.